pire que les 6, 7 et 8 octobre 1973, juste après que renseignement militaire eut failli, ce qui a permis à l'Égypte et à la Syrie, c'était la guerre du Kippour, il y a 50 ans exactement. Et là, effectivement, le choc et la sidération étaient très importants. D'ailleurs, ça s'était poursuivi des mois, voire des années. Ça avait fait littéralement chuter un gouvernement. Et finalement, même l'intelligentsia travailliste en avait tellement pâti que le Likoud arriverait au pouvoir. Bref, ça a été un traumatisme. Mais, en 73, pas un seul civil israélien n'avait été touché sur le sol de l'État d'Israël. Au fond, c'était, à la loyale, des chars contre des chars, des soldats contre des soldats.
Une guerre conventionnelle, comme on
dit. Une guerre tout à fait conventionnelle. Et aucun otage israélien, a fortiori, n'avait été capturé. Et il n'y avait pas eu de massacre de civils israéliens sur le sol israélien. Par conséquent, je pense que ça va au moins, la Shoah, je ne sais pas, mais en tout cas, le traumatisme, je pense qu'il est aujourd'hui, sans doute, le plus profond depuis au moins la création d'Israël en 1948, de ce point de vue-là.
Mmh. Je crois que le point de départ tout de même de cette affaire, c'est 1967, avec la guerre de 73 ensuite.
Mais la guerre des six jours.
La guerre des six jours. Et par conséquent, le point de départ, ça a été l'occupation.
Il faut
évidemment ne pas oublier qu'il y a une occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et puis l'enfermement de Gaza maintenant. Autrement dit, le point de départ, c'est tout de même ça. Et le deuxième point de départ, si je puis dire, c'est l'idée qu'il y a une colonisation, c'est-à-dire la volonté de garder ces territoires, et en particulier la Cisjordanie, avec des colonies. Donc on a d'abord ça comme point de repère. Et donc les Palestiniens sont soit dans la soumission en Cisjordanie et subissent cette colonisation, ou bien sont enfermés dans Gaza. Donc c'est ça qu'il faut, je crois. Et donc ils sont chez eux, mais dans une façon, enfin, sans aucune espèce de liberté. Et c'est le point de départ. À partir de là, l'armée israélienne est une armée qui occupe ces territoires et qui enferme Gaza. Je crois qu'il faut bien voir ça. Et la véritable sécurité pour moi, l'État d'Israël, qui est indispensable, bien entendu, la véritable sécurité de l'État d'Israël serait d'assurer aussi la sécurité des Palestiniens. On a cette espèce de contradiction fondamentale depuis des décennies où on pense qu'en gardant cette situation de domination, on peut avoir une sécurité. Ça tient pas. Ça tient jamais. Il y a 5 millions, surtout qu'il y a une dimension démographique, il y a 5 millions de Palestiniens, 3 du côté de la Cisjordanie, 2,3 du côté de Gaza, tous ces gens-là, femmes, enfants, indépendamment des organisations politiques dont on parlera peut-être, ils sont dans la soumission ou dans l'enfermement. Et ça ne peut pas tenir. Alors l'armée israélienne, elle fait ce qu'elle peut, si je puis dire, mais c'est une armée qui serait supposée défendre son territoire à l'extérieur, alors que là, elle est très largement une armée d'occupation. Et en termes juridiques, je m'arrête là, c'est une puissance occupante au sens du droit international.
C'est-à-dire que la première intifada date de 87, lorsqu'effectivement les Israéliens occupaient Gaza. Alors ils en sont sortis en 2005, en restant aux abords de Gaza. Et le Hamas, dont il est question aujourd'hui, a perpétré un putsch, pas contre Israël, contre l'autorité palestinienne tout de même. Donc le Hamas est à Gaza, où il mène une politique par ailleurs totalitaire vis-à-vis des Palestiniens. Alors on pourra peut-être y revenir, mais du coup l'armée israélienne, elle n'est plus directement sur place. Maintenant, pour ce qui concerne les renseignements militaires, bien sûr qu'on a assisté non seulement à une faillite, mais à l'extérieur même de cette fameuse barrière, il y a eu, d'un point de vue strictement matériel, strictement humain, une très très grande défaillance, sans doute d'ailleurs, je le dis d'un mot, parce que les Israéliens se sont concentrés ces dernières années, et ce n'est pas stupide, à une menace qu'ils considèrent comme beaucoup plus existentielle, qui est la menace iranienne.
On a des ordres et des divisions extrêmement fortes en ce moment en Israël. Les réservistes qui occupent une place centrale dans l'armée israélienne ne se sont pas entraînés depuis sept mois, parce qu'ils étaient en grève contre la réforme judiciaire voulue par Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, qu'il jugeait comme anti-démocratique, qu'elle allait menacer la démocratie en Israël. Il y a des divisions au sein même de la coalition. Itamar Ben-Gvir, quand même, qui est le ministre de la Sécurité nationale, qui est écarté de toutes les réunions sécuritaires au moment où sont décidées notamment des frappes contre le djihad islamique à Gaza. C'est ce qui s'est passé en avril ou en mai. Itamar Ben-Gvir, qui a claqué la porte du cabinet de Benjamin Netanyahou, qui lui estime que Benjamin Netanyahou est trop faible par rapport à ces deux groupes, au djihad islamique ou encore au Hamas. Et beaucoup d'observateurs ont essayé de mettre en garde le Premier ministre israélien en disant « attention ». on va se servir de nos divisions.
Vraiment, il y a eu des avertissements.
Il y a eu des avertissements et il y a une information alors, à vérifier selon laquelle l'Égypte aurait aussi alerté il y a une dizaine de jours Benjamin Netanyahou sur la possibilité d'une attaque sur le front de la bande de Gaza. Visiblement, l'armée était impréparée puisqu'elle était plutôt sur le front de la Cisjordanie. Est-ce qu'il y a eu des informations selon lesquelles, des informations erronées pour les induire en erreur selon lesquelles la menace arriverait de la Cisjordanie et non de la bande de Gaza? En tous les cas, de nombreuses unités de l'armée israélienne étaient déployées autour des colonies de la Cisjordanie au moment des fêtes juives de Soukhout.
Je pense que j'évoquais tout à l'heure l'occupation, ça me paraît la base, et l'enfermement. Nous en sommes au moins au cinquième affrontement, avec cette différence énorme, c'est d'une autre nature à tous égards, bien entendu. Mais je veux dire que il était tout à fait prévisible qu'il y aurait à nouveau une guerre entre le Hamas et puis Israël, de même qu'il est sans arrêt évoqué l'idée qu'il pourrait y avoir une intifada ou en tout cas des mouvements de la part des jeunes palestiniens. On l'en a vu à Naplouse, on a vu à Jénine. Depuis le début de l'année, il y a eu quelque chose comme 200 morts chez les jeunes qui essaient de manière individuelle ou très peu organisée. Donc on a sans arrêt il y a une incandescence sans arrêt. Mais simplement, on ne la voit pas. Alors là, évidemment, nous sommes dans une offensive d'une très grande envergure, avec une préparation en amont qui est tout à fait étonnante. Et c'est vrai qu'il est étrange que les services israéliens n'aient pas vu cette préparation. Et ce moment qui est un tournant dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, avec des conséquences qui, malheureusement...
On va les évoquer tout à l'heure.
Oui, si les Israéliens ne réinvestissent pas militairement, de manière massive, la bande de Gaza. Or, je pense qu'ils vont le faire. Je pense que le gouvernement israélien va changer de paradigme et considère que, dorénavant, on ne peut pas être seulement, entre guillemets, sur la 4e ou 5e ou 6e des guerres.
Il y a 2 200 000 habitants.
Ah oui, non, mais et avec une densité bâtie extraordinaire. Je suis allé souvent, c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle, et là, je rejoins le pessimisme ou le réalisme de Jean-Paul Chagnot, je pense qu'on va vers des jours tragiques. Guillemets, nettoyer notamment des missiles, puisque vous parlez de ça, et des capacités balistiques du Hamas, parce que sinon, si vous voulez, c'est toute la crédibilité de Tsahal, du gouvernement israélien, des renseignements militaires, qui sera très durement mise à mal pendant très longtemps. Et je pense que l'État d'Israël ne peut pas se le permettre. Encore une fois, je ne dis pas que le gouvernement va réussir. J'affirme qu'il va vouloir empêcher, enfin casser, cette capacité autonome de la part du Hamas à produire des armes.
Oui, mais les images sont terribles, autant des deux côtés. Là, il y a les otages. On parle de plus d'une centaine d'otages israéliens qui sont aux mains de ces groupes islamistes dans la bande de Gaza. Ça devient un traumatisme d'État, comme l'a été le caporal Gilad Shalit, qui a été échangé, on le rappelle, contre 1027. Un homme,
après 5 ans,
dans des conditions inhumaines qui ont été dénoncées par l'ONU, c'est ce qu'espère aussi Gaza, les groupes qui dirigent Gaza, c'est d'échanger leurs détenus. Donc c'est un traumatisme d'État déjà en Israël, parce qu'il faut s'imaginer que depuis 48 heures sur les télévisions israéliennes, ce sont les appels désespérés des familles, d'un père, d'une mère, d'un mari, où est ma femme, où sont nos proches. Ils se sentent complètement laissés à l'abandon, sachant que l'État hébreu a pour vocation de protéger ses citoyens. Ils se sentent totalement laissés pour compte. Donc il y a déjà un traumatisme d'État de ce côté-là. À Gaza également, on voit depuis ce matin, depuis cet après-midi, des images absolument terribles. Moi, j'ai vu l'image d'un père qui tenait son fils mort dans les bras.
Avec 17 morts dans la famille. Enfin, oui.
Il y a des morts de tous les côtés. Et cette violence des civils, cette violence va entraîner d'autres violences. Ce soir, il y a une très grande colère et je pense pas que cette colère va pouvoir émerger vers un plan de paix. La colère amène toujours un autre cycle de radicalité et de violence. Donc j'ai l'impression qu'on va s'orienter vers plus de radicalité.
D'ailleurs,
encore.
Cette idée qu'on va changer ou qu'on va éradiquer, elle est historiquement absurde. Le Hamas, quelques opinions puissent avoir, et moi évidemment mon opinion est extrêmement critique, ça va de soi. Il est malgré tout représentant d'une grande partie du peuple palestinien. Donc éradiquer une organisation qui est ancrée, ça n'a pas de sens.
Le Hamas voulant l'éradication d'Israël, c'est dans ses statuts, contrairement à l'OLP.
Oui, non, mais je parle du Hamas et de cette idée qu'on veut éradiquer le Hamas. Bon, et ensuite, pour reprendre ce que disait Frédéric Ansel à l'instant, je suis d'accord, il va y avoir sans doute, en tout cas ils le veulent, une offensive. Mais ils vont aller, on évoquait tout à l'heure tous les deux, ils vont aller au bout. Mais la question... du point de vue israélien, ça veut dire quoi aller au bout?
Oui, c'est
au bout de quoi? Au bout de quoi? C'est-à-dire c'est une dynamique fondée au fond sur la vengeance, sur la haine, qui est malheureusement réciproque, mais qui va donner quoi? Qui va donner davantage de tragédies. Et face à cela, que croyez-vous qu'il va se passer ailleurs, du côté de la Cisjordanie ou de Jérusalem-Est? Il est évident que les jeunes qui déjà ont essayé de se battre ces derniers temps, ces dernières années, contre l'armée d'occupation, parce que c'est une armée d'occupation, eh bien, il va se passer des choses. Donc, la réponse à votre question, bien sûr qu'il va y avoir, je ne sais pas si on peut parler d'embrasement, mais en tout cas, il va y avoir une volonté de... Moi, je vais prendre une formule un peu brutale, mais ils auront, paradoxalement, une volonté de vivre. Et la volonté de vivre dans ces situations-là conduit à l'acceptation de mourir. Mmh. Et ça, c'est un élément central en Cisjordanie et sans doute plus encore à Gaza. À Gaza, ils vont subir une tragédie, mais bon, ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est ça qui est aussi un élément de l'équation qui va faire cette tragédie dans les temps qui viennent.
Et dans l'un des acteurs.
Alors, effectivement, vous parlez de l'article du Wall Street Journal, oui, qui est très intéressant. Oui. Parce que déjà, moi, au mois d'avril...
Un blanc-seing donné par les Iraniens,
incroyable,
à l'opération.
Depuis le mois d'avril, le Wall Street Journal a documenté et a prédit tout ce qui s'est passé samedi matin. Il y a les réunions secrètes à l'ambassade iranienne à Beyrouth. L'Iran, via les gardiens de la Révolution, la force Al-Quds, qui s'appelle la force Palestine, c'est la branche extérieure des gardiens de la Révolution, qui réunit le Hezbollah, le djihad islamique et le Hamas, et qui leur demande de mener des attaques coordonnées de manière rapide pour empêcher notamment la normalisation, de continuer la normalisation entre Israël et les pays arabes et notamment l'Arabie saoudite. Ce qui est assez surprenant, c'est quelques jours avant, enfin surprenant, c'est une manière de parler, quelques jours avant l'attaque de samedi, le guide suprême Ali Khamenei, qui détient tous les pouvoirs en Iran, qui prend toutes les grandes décisions de la République islamique, a eu un discours plus virulent que d'habitude sur Israël en annonçant que le régime, je cite, le régime sioniste allait mourir. Ce qui est intéressant de voir aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pour le moment que le Hamas qui indique qu'ils ont une aide directe, un soutien direct de la part de l'Iran. Pourquoi Israël et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, annoncent qu'ils ne sont pas du tout sûrs d'une implication de l'Iran? Parce que ça voudrait dire que Benjamin Netanyahou, l'Israël, devrait aller plus loin et frapper l'Iran.
C'est ça.
Et c'est là toute la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible que l'Iran soit frappé par
l'Iran, potentielle puissance atomique, Israël aussi.
Avec des discussions sur le nucléaire qui patinent depuis des mois et une puissance militaire extrêmement importante. Un arsenal qui détient un arsenal militaire important.
Frédéric Ansetou.
Le groupe islamiste radical sunnite, bien évidemment, Hamas, mène une guerre sainte officiellement, très officiellement, contre eux. Israël et entre parenthèses contre les Juifs. Si la gardienne des lieux saints de la Mecque et Médine, ce royaume ultra-conservateur, en tout cas jusqu'à ces toutes dernières années, reconnaît Israël, c'est-à-dire l'état-nation d'un peuple juif, c'est la légitimité religieuse de la lutte du Hamas contre Israël qui s'effondre. Et entre parenthèses, l'Iran, évidemment hostile à l'Arabie saoudite, alors pour plein de raisons, d'ailleurs pour d'autres raisons aussi, se retrouve effectivement allié au Hamas de ce point de vue-là. Mais juste une nuance, si vous permettez, on parle souvent de la volonté de la part de l'Iran d'éradiquer Israël. Oui, je veux bien. Moi, ça c'est dans les mots. Et dans la guerre par procuration, via le Hezbollah, via aujourd'hui le Hamas. L'Iran, depuis 1979, n'a jamais attaqué directement Israël. Pourquoi? Non pas qu'il soit favorable au sionisme, ni à Netanyahou, mais simplement l'Iran est dirigé, comme je dis souvent, par des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Et ils connaissent parfaitement les rapports de force. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, ils poussent effectivement les autres dans la région à attaquer Israël sur un agenda qui leur est propre, en réalité.
Qui est l'ancrage national de ces organisations, que ce soit le Hamas, qui a son propre agenda par rapport à la question palestinienne, même s'il y a évidemment des rapports à l'Iran, mais je pense pas du tout qu'il soit manipulé par l'Iran, même si l'Iran, par contre, peut l'utiliser, évidemment. Mais où est le curseur? C'est très compliqué. Et par rapport au Hezbollah, je pense que le Hezbollah a bien d'autres questions à se poser, et en particulier aujourd'hui, une offensive du Hezbollah serait absolument dramatique pour le Liban. Le Liban est aujourd'hui dans une situation absolument terrible. Pour donner juste un chiffre, il y a deux ans, la livre, pour un dollar, c'était 1500 livres. Aujourd'hui, pour un dollar, c'est 100 000.
Oui, le pays est failli.
Donc ça veut dire que ça s'est complètement effondré. Donc dans cette configuration politique et économique, d'accord, ce serait un suicide. Et je pense que l'agenda national n'est pas du tout, sauf à gesticuler un peu du côté des fermes de Sheba. Mais ça n'ira pas plus loin, à mon avis. Par contre, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, oui, il peut se passer des choses.
Joue plus Mahmoud Abbas, qui a complètement été affaibli, il a 87 ans. Le président de l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie. Isaac Rabin a été assassiné par un ultra-religieux israélien. C'est impossible. Est-ce que la paix est possible? Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix? C'est la question qui se pose également, toutes les parties prenantes autour. C'est une question, une équation un peu insoluble.
Le gouvernement israélien aujourd'hui n'est absolument pas favorable, malheureusement, à la solution des deux États, mais le Hamas, pas du tout, et il ne l'a jamais été non plus.
Le Hamas et Netanyahou, en 93 et 95, ont été ceux qui ont torpillé le processus d'Oslo.